Chapitre 6.
J'ai tout perdu, sauf la mémoire. Il m'a volé ma femme, mon travail et mon nom. Je suis le seul à savoir qui n'est pas moi, j'en suis la preuve vivante. Mais pour combien de temps? Je suis en danger, monsieur. Et vous êtes mon dernier espoir. Une porte s'ouvre, la secrétaire raccompagne un client. Je rassemble les phrases que j'ai préparées, je me lève. Elle revient dans la salle d'attente, me désigne la porte qu'elle referme derrière moi. Je m'attendais à un petit fouineur avec un veston pied de poule et le regard en biais, ou un gros transpirant à l'œil noyé de bourbon, les stéréotypes associés au métier. C'est un long chauve en polo noir avec des boots et un piercing. « Je ne fais pas l'adultère », me précise-t-il d'emblée. « Uniquement la recherche d'informations commerciales, industrielles ou successorales, et la vérification de renseignements d'ordre personnel. » Je lui confirme que je l'ai choisi dans cette optique. Il m'indique la chaise en face de son bureau. J'ajoute que c'est la première fois que je m'adresse à un détective privé. Il répond qu'on dit « agent de recherche ». C'est à quel sujet? Moi. Je vais pour lancer l'appel au secours que j'ai mis au point dans la salle d'attente, mais son quant à soi et son look de décorateur froid me font choisir la sobriété. Je suis citoyen américain, j'ai perdu mes papiers et on en profite pour essayer de me voler mon identité. J'ai lu dans votre encadré publicitaire que vous aviez des enquêteurs aux États-Unis.
Des correspondants, oui.
J'ai besoin de prouver qui je suis, de toute urgence, pour confondre l'imposteur qui se fait passer pour moi.
Vous avez une idée de mes tarifs?
Non, c'est sans importance.
Quel est le contexte?
Je raconte mon histoire, une fois encore, avec l'impression agaçante d'exposer la situation d'autrui, d'être étranger à ce qui m'arrive.
Vous ne préférez pas vous adresser à votre consulat?
J'en viens.
Et?
Je lui résume le bilan de ma démarche. Aucun moyen d'obtenir sur place un duplicata de passeport, une fiche d'état civil, un relevé d'empreinte digitale, ni même une attestation à partir de mon numéro d'assuré social. J'ai insisté, rempli 20 déclarations, j'ai attendu 3 heures, j'ai finalement été reçu par un type en bras de chemise qui m'a certifié que tout allait bien. On avait transmis mes requêtes au service concerné, simplement il y avait un délai normal pour traiter ce genre de dossier. Quand j'ai voulu savoir ce qu'était un délai normal, il m'a répondu que ça dépendait. Mais on était fin octobre et il ne fallait pas rêver. En me serrant la main, sympathique, il m'a souhaité bonne chance et m'a dit de ne pas hésiter à l'appeler en cas de besoin, quel que soit le problème. Je suis sorti content, dans un premier temps, et puis je me suis rendu compte au milieu de l'escalier que je repartais complètement bredouille. Il ne m'avait même pas donné son nom.
« Vous me demandez quoi exactement ?»
fait le détective en triturant le diamant au coin de son nez.
« De vous obtenir des documents d'état civil plus rapidement que l'administration américaine ?»« Je ne voudrais pas vous laisser de faux espoirs, monsieur Harris. Je suis cher, mais quand même. »«
Non, je pensais que vous pourriez envoyer vos correspondants, enquêter chez moi à Greenwich, sur mon campus, interroger mes voisins, mes collègues, leur montrer ma photo, recueillir leurs témoignages. » Me fournir des justificatifs.
Destiné à qui?
Son ton d'interrogatoire me crispe. Je lui précise que je suis victime du complot d'une multinationale décidée à me discréditer dans mon combat contre les OGM. Du coup, son visage s'anime, ses paupières se relèvent et une lueur d'intérêt m'éclaire sous un jour nouveau.
Monsanto?
Ou ses concurrents?
Dans ce cas, vous ne pouviez pas mieux tomber. Je suis en relation avec le meilleur cabinet d'avocats de Philadelphie, spécialiste dans les poursuites contre les lobbies industriels. Je leur ai fourni des pièces déterminantes dans le dossier Vivendi.
Non, merci, je veux prouver que je suis moi, c'est tout. Je vous ai préparé une liste avec les personnes et les organismes à contacter. Il me demande pourquoi je ne m'en charge pas moi-même. Je n'ai plus d'ordinateur, ni de téléphone, ni d'American Express. J'ai fait opposition et tant que je n'ai pas reçu ma nouvelle carte, je regrette aussitôt l'aveu d'insolvabilité qui va sans doute refroidir son enthousiasme. Mais il a entamé la lecture de mes 2 pages de noms, d'adresses, de références, de repères biographiques, et son sourire continue de s'allonger. Visiblement, les profits qu'il espère retirer de mon affaire excèdent de beaucoup la provision qu'il pourrait me demander.
Vous avez réussi à faire citer en justice comme témoin des plantes?
Le respect a creusé sa voie. Je confirme.
Je comprends que le lobby des OGM essaie de vous casser, murmure-t-il en se levant.
Je reviens tout de suite.
Il sort avec ses deux feuilles qui résument une vie. Quand j'ai consigné tout à l'heure sur le papier les détails extraits de ma mémoire, j'avais la même nervosité que lorsque je fais mes valises, la même angoisse d'oublier quelque chose d'important.
Tous les événements se présentaient à la demande, tous les faits marquants de mon existence, mais j'avais besoin d'un effort pour reconstituer les images liées aux personnes, aux lieux que j'évoquais. Mon père dans les jardins de Disney World, ma mère déguisée en vaïnée portant les petits déjeuners à travers les allées du Polynesian Hotel, ma remise de diplôme à Yale, ma rencontre avec Lise dans une soirée du département de droit, notre mariage sans famille, avec pour seul invité des collègues, mes premières découvertes sur le langage des plantes. En concentrant mon attention, j'avais l'impression que dans mon cerveau, des morceaux de moi se détachaient et partaient en arrière pour composer un souvenir, recréer une scène. À chaque fois, c'était ce sentiment d'arrachement, d'ubiquité, de dispersion. Comme un arbre qui perd ses feuilles, une fleur qui dissémine son pollen. Je n'ai jamais connu ça. Je suis quelqu'un qui a toujours construit sa vie sur une seule note, la rage issue des humiliations d'enfance. Le sentiment d'injustice et de rejet s'est transformé au fil des années en fierté d'être différent, d'échapper à l'espèce humaine et de ne compter que sur moi. J'ai toujours été rassemblé, cohérent, inattaquable. Pourquoi cette sensation de m'amputer d'une part de moi-même à chaque souvenir que je fixais par écrit? Sans doute un effet secondaire du coma, un de plus. Mais il y a cet autre phénomène encore plus bizarre, la surimpression. Au moment d'inscrire la date et le lieu de mon mariage, une image venue d'ailleurs s'est installée par-dessus la scène, dissipant le décor du country club de Greenwich. Je suis avec Lise dans une rue de Manhattan, exactement au coin de la 42e rue et de la 6e avenue, là où le panneau géant affiche en direct à chaque seconde le montant de la dette nationale et sa répartition par foyer américain. Je suis en train d'embrasser Lise, mais je me vois de dos, en contrebas, comme lorsque je survolais mon corps pendant le coma. Et les chiffres à cristaux liquides défilent, de plus en plus lumineux, de plus en plus nets. 62 470 732 815.
Vous tenez vraiment à ce que je fasse vérifier tous ces points? Il me semble que la confirmation de votre université serait largement suffisante.
Le chauve est revenu dans le bureau, dépose devant moi une photocopie de ma vie.
Tous les points, oui. Je tiens absolument à ce qu'on vérifie tous les points, à ce qu'on prouve que c'est mon enfance, ma carrière, ma femme. C'est mon existence entière que l'autre s'approprie. Je veux qu'on le confonde point par point.
Il acquiesce avec empressement. C'est fou comme l'autorité revient vite dès qu'on représente pour quelqu'un la promesse d'un profit.
Je dois téléphoner. C'est sur Paris. Allez-y, je vous laisse. Ce n'est pas utile.
Il me tend le combiné, va ouvrir le tiroir d'un classeur. J'appelle Muriel, lui dis que je vais très bien et que le docteur Farge nous invite ce soir à Rambouillet. Après 3 secondes de silence, elle me répond qu'elle est ravie pour moi et qu'elle ne peut pas venir. Elle doit faire travailler son fils, mais je n'ai qu'à dîner chez eux un autre soir. Sa voix est détimbrée, impersonnelle. Sans transition, elle me demande si je suis sûr d'aller mieux. Dominant l'agacement, je lui réplique qu'elle aura très vite des preuves formelles de mon identité.
Demain midi, précise le détective.
Je le dévisage, impressionné. Il m'explique que le temps, c'est de l'argent qu'on perd, lui comme moi.
Dès la réception du mail, mon correspondant m'a répondu qu'un enquêteur partait pour Yale et un deuxième pour Greenwich. Si vous le souhaitez, je vais lui en commander 2 autres, sur Orlando et sur Brooklyn. Ne bougez plus.
Il appuie sur le déclencheur d'un appareil numérique, me montre la photo sur l'écran. À l'autre bout de la ligne, j'entends une voix d'homme donner un itinéraire à Muriel. Je lui dis « bonne journée ». Raccroche et demande au détective s'il est resté longtemps absent du bureau.
4 ou 5 minutes, je crois. J'ai fait aussi vite que possible.
Toujours cet espace-temps bizarre dès que je sollicite ma mémoire.
L'impression que je ne suis parti en arrière qu'une dizaine de secondes, et les minutes ont passé sans moi. Je transmets votre photo. Où puis-je vous joindre ?
C'est moi qui vous appellerai.
Pendant qu'on y est, je voudrais aussi savoir à quelle date correspond le montant de la dette nationale américaine, chiffré à 62 470 732 815 $.
Il note sur un bloc. L'avantage avec un détective privé, c'est qu'il ne s'étonne de rien.
Autre chose, monsieur Harris ?
Non.
En ce qui me concerne, un dernier point. Votre mère, vous n'indiquez pas son adresse.
La dernière fois que je l'ai vue, j'avais 13 ans. Je ne lui ai jamais pardonné ce qu'elle a fait à mon père.
Il marque un silence poli, à mi-chemin entre la discrétion et l'indifférence. Mais retrouvez-la si vous pouvez, c'est l'occasion. Demandez à Disney World, elle a travaillé au room service du Polynesian jusqu'au 5 août 1975, où elle est partie avec un banquier allemand, Crossman Günther, chambre 3124.
Il note sur son bloc, avec un sourire en coin. « Votre mémoire est d'une fraîcheur. »«
Merci, » dis-je en me levant, « à demain. »
Entre les deux miroirs de l'ascenseur, j'essaie d'oublier cette colère froide, cette rage intacte comme au premier jour sans elle, cette rancune dépassionnée chaque fois qu'elle me téléphonait pour se justifier, accuser mon père du coup de foudre qu'elle avait eu pour le 31-24 et me rendre finalement responsable de l'abandon qui s'ensuivait. Ce veuve de la Bundesbank, elle me répétait que c'était la chance de sa vie. Sous-entendu, ça compensait la malchance que moi j'incarnais, un coup tiré au hasard avec un miteux d'un soir qui ne s'était pas éjecté à temps. J'avais résisté aux montagnes russes, aux tisanes abortives, je m'étais accroché, tant pis pour moi. Elle nous avait assumés, papa et moi, pendant 13 ans. J'étais grand, elle était libre. Être renié aujourd'hui par ma femme, avec le même naturel que je l'avais été par ma mère, est totalement insupportable. Sur le trottoir, je me retrouve avec une violence en creux dont je ne sais que faire. Une force que je serre dans mes poings tandis que les passants me contournent. J'ai beau me dire que la vérité est en marche, que les enquêteurs vont confirmer mon état civil en quelques heures, je n'arrive pas à redevenir moi-même, à me sentir comme avant. Une autre personnalité a germé depuis ce matin, à mon insu, celle de l'imposteur qu'on m'accuse d'être. Et la liberté paradoxale qui en découle me rend de plus en plus mal dans ma peau, incapable de contrôler ce qui m'arrive. Comme une puberté qui affole le corps, une énergie qui paralyse tant qu'on n'ose pas l'utiliser, l'accepter, l'assouvir. Je marche sur le boulevard Sébastopol, entre les arbres fragilisés par l'interdiction de stationner. Je m'arrête devant un platane condamné, marqué d'une croix jaune. Le salage des chaussées chaque hiver. Sans la protection des voitures garées le long des trottoirs, la circulation projette sur les troncs le mélange acide qui va les ronger bien plus sûrement que l'urine des chiens. J'enlace le platane pour lui donner des forces en lui en prenant cet échange qui jalonne mes journées. Rien. Je ne ressens rien. Ni les vibrations de la sève dans mes veines, ni la dilatation du plexus, ni cette espèce d'arc électrique qui parcourt mon corps d'une main à l'autre. J'essaie avec son voisin, puis je pousse la grille d'un square pour en serrer un tilleul plus jeune, plus sain, un marronnier centenaire. Pas le moindre écho, pas le moindre retour. Les arbres ne me reconnaissent plus. Ou alors mon état nerveux les perturbe, fait écran m'empêche de les capter. Il faut que j'évacue cette tension absolument. Je traverse le boulevard, m'enfonce dans une ruelle qui débouche sur le forum des Halles. Tout à l'heure, quand je suis sorti du RER, des enfants jouaient sur la dalle, des parents se gelaient sur place et des jeunes enchaînaient les figures de breakdance au milieu des feuilles mortes. À présent, il est 18h et la nuit vient de tomber. Les familles sont rentrées chez elles, les ados ont emporté leur musique. Dans l'alignement des lampadaires entre les arbustes et les buissons, des dealers sereins attirent le client, sortent leurs échantillons, font goûter, négocient, encaissent. Je choisis un coin tranquille entre deux bacs de forsythia, je m'adosse à un panneau et j'attends.